Bonjour à toutes et à tous. Les nouvelles vagues cette semaine étaient consacrées aux lecteurs. Et pour terminer la série aujourd'hui, en direct du Salon Livre Paris 2016, on ajoute à la foule de voix une autre foule de voix. Blind Test Cinéma sur le thème des lecteurs. Le suspense est à son comble. Imaginons un salon du livre très grand dans l'une des villes au monde qui crie son amour des textes jusque sur les berges de son fleuve. Imaginons que ce salon soit payant, mais que l'entrée onéreuse soit remboursée à l'achat du premier livre. Imaginons que les livres soient tellement précieux, qu'on ait tellement à cœur de les faire circuler, qu'on ait tellement conscience de l'inégalité d'accès à la lecture, que l'on choisirait par exemple de rendre totalement gratuit l'accès aux demandeurs d'emploi. Imaginons encore que la lecture soit au cœur de ce que l'on souhaite vraiment de mieux pour les enfants et que donc les professeurs et instituteurs puissent circuler dans ce salon librement, même en dehors des visites scolaires pour y prendre des idées, acheter des ouvrages, se renseigner, rencontrer des auteurs. Bref, la prochaine fois, demandez-nous, car les lecteurs aussi ont de l'imagination. Bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues et bientôt un salon pour tous. Ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont portées par des êtres et que souvent elles naissent de moments marquants. Cette semaine, nous avons demandé à Romain Villet de sonder ses souvenirs à la recherche de ces moments-là. Romain Villet est musicien, grand lecteur, jeune auteur, il est aussi aveugle et il nous raconte tout à l'heure sa découverte du journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière grâce à une machine nommée Victor. Récit et explication vers 14h50. C'est donc le dernier moment de cette semaine consacré au lecteur. Lundi, Marielle Masset nous parlait de la lecture comme forme de vie, mais aussi de la lecture comme possibilité de faire entrer en soi des formes de vie. Mardi, quatre jurés du prix étudiant France Culture Télérama témoignaient de la place de la lecture dans leurs études, dans leurs enfances et dans leur tout jeune parcours. Mercredi, trois animateurs de blogs de lecture racontaient combien Internet élargit la liberté du critique et explose les frontières des tables du libraire. Et enfin, hier, ici, en direct de Livre Paris 2016, deux romancières parlaient des livres et des lecteurs dans leurs fictions respectives. Aujourd'hui, les lecteurs, les lectures, les citations, les livres, nous les traquons dans les films grâce à un dispositif assez inhabituel mais pas inconnu de nos auditeurs fidèles. Nous avons réuni deux équipes composées exclusivement de collaborateurs de France Culture. Ils devront pendant une heure tenter de reconnaître dans le brouhaha du salon et à l'aveugle des extraits de films choisis par Alice, Romain et Chloé. Une fois reconnu le titre du film et éventuellement son réalisateur et pourquoi pas l'année de sa sortie, ils devront prodiguer commentaires et anecdotes les plus épanouissantes possibles pour les auditeurs. Évidemment, nous comptons les points et évidemment, le fair play est de mise. Présentation des équipes. À ma droite, Émilie Chedet, Lucille Como et François Angelier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Marie. Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous.
Est-ce qu'on peut connaître le nom de votre équipe?
Les Rats. Pourquoi? Parce qu'il y a des rats dans les bibliothèques et les cinémathèques. Et on va essayer donc de ronger et les livres et les bobines.
Est-ce qu'il faut savoir ou, je sais pas, comprendre par là que, Lucille, vous êtes des rats de bibliothèque tous les trois?
Bah justement, c'est un peu un mensonger à ce niveau-là.
Ça, c'est ambitieux comme programme.
C'était plus vrai il y a 10 ans, ce qui me concerne, rats de cinémathèque.
Et vous, Lucille?
Clairement, c'est plus d'actualité le côté rat.
Donc ok, bon, on essaiera de vous faire redevenir des rats pendant
voilà,
cette émission.
Aucun problème.
On va essayer.
Et à ma gauche, peut-être un cri de guerre, quelque chose, un cri de ralliement.
On laissera François le faire.
Merci François.
Le cri du rat qui vient de trouver la bonne réponse.
Victor Massé de l'Épinay, Géraldine Mouesnin-Savoie et Mathilde Wagman, bonjour à tous les trois, merci d'être là.
Bonjour Marie. Bonjour Marie.
Oh là là, c'est un peu plus lumineux hein, quand même à ma gauche, j'ai l'impression. Quel est le nom de cette équipe à ma gauche?
Nous nous appelons les couvertures.
Ah bon, pourquoi?
Parce que...
Attends, ça applaudit. Applaudit. Ah, vous êtes applaudis? Non.
Parce que ce soit pour voir des films ou pour lire un livre, on est bien sous une couverture. Parce que les couvertures couvrent les livres.
Et parce que quand on a un rat dans sa chambre, la première arme qu'on a, c'est une couverture.
Oh là là, Victor, il est belliqueux.
Le rat, non, les couettes. Ouais.
Et enfin, Géraldine, un dernier argument? Ou un cri de guerre?
Ah oui, alors on a un cri de guerre, c'est c'est quand on se blottit dans une couverture.
Bon, très bien. Donc cri de guerre à ma droite. Sympa. Cri de guerre à ma gauche. Bon, très bien. Romain de Magdelièvre à ma gauche. Je savais plus où j'en étais. Salut Romain, qu'est-ce que tu vas faire toi cet après-midi?
Je vais actionner la cloche principalement.
Voilà, et à quel moment tu vas actionner la cloche?
Dès que quelqu'un trouve une bonne réponse.
Bon, donc on écoutera les extraits des films. Romain actionnera la cloche, comptera les points.
Oui, aussi.
Et puis ensuite, nous discuterons de manière très épanouissante pour tous nos auditeurs des films qui travaillent la figure du lecteur. Et à ma droite, très lointain, Alice. Tu m'entends, Alice?
Oui, Marie, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Ah, si, moi, je t'entends très bien.
C'est magnifique.
Bon, toi, tu es dans le public.
Oui, je suis cachée.
Nombreux.
Bonjour.
Et tu solliciteras le public en quelle situation?
En cas de joker.
En cas de joker.
S'il y a un gros échec au niveau du...
Les deux équipes,
voilà.
Si vraiment vous
nagez, c'est l'équivalent de l'appel à un ami.
C'est exactement l'équivalent de l'appel à un ami. C'est-à-dire que considérez que tout ce public est votre ami et que si vous séchez à trouver ces fameux films qui traitent la figure du lecteur, vous pouvez appeler un ami. Enfin, vous appelez Alice qui appelle le public qui est votre ami.
Qui est notre ami. Bon. On compte sur le public.
Merci Alice, on compte sur toi aussi. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Est-ce que le public est prêt? Ah, le public n'a pas encore de voix, mais le public va trouver sa propre voix.
Oui.
On commence.
Vit le sage sur un petit nuage où les jours se tiennent immobiles, où les gens dès le matin bavardent de tout et de
rien.
Bon, j'ai l'impression que quand même ça a été trouvé. Ça a été trouvé d'abord à ma gauche par l'équipe des couvertures et par précisément Victor Massé de l'Épinay. On vous écoute.
La Belle et la Bête de Walt Disney. Alors ça c'est le titre. L'année de la sortie, ça doit être aux environs de 90.
Non, 92.
91. Vous y êtes presque. Vous êtes presque.
L'anecdote épanouissante, je laisse mes amis.
Ah ben moi, c'est incroyable, c'est le premier film que je suis allée voir au cinéma.
C'est dire fou. Si elle est jeune.
Oui, tout à fait.
Bon, et puis c'est La Belle et... Attendez, j'ai un affreux. La Belle et la Bête, c'est le bisou spaghetti.
Non.
Ça, c'est La Belle et le clochard.
Je confonds avec quoi?
Avec Cocteau.
La Belle et le clochard. Pardon, moi, j'ai pas vu La Belle et la Bête.
Bon, alors, on va quand même pas trop s'éloigner de notre thème. Il est question du traitement de la figure des lecteurs dans le cinéma français et le cinéma international. Alors, Victor Massé de l'Épinay, si vous voulez vraiment entériner le point pour votre équipe, il faut qu'on puisse un tout petit peu quand même argumenter du traitement du lecteur dans ce film.
C'est la scène d'ouverture de La Belle et la Bête et on voit Belle qui se promène dans son village et qui aime lire, qui vit dans les livres, qui est une sorte d'Emma Bovary disneyenne. Et qui va rencontrer une sorte de Rodolphe qui sera un peu poilu, mais qui est l'équivalent de Rodolphe, voilà, la bête.
Qu'est-ce que nous offre ce film de Walt Disney comme figure du lecteur? Elle est belle, vous l'avez dit, mais donc elle est un petit peu étrange.
Alors là, en revanche, j'ai peut-être besoin d'aide.
C'est peut-être, je pense, Émilie Chauvet. Une des premières héroïnes d'un dessin animé Disney qui commence le film en faisant part de son désir de lire et non pas de son désir d'être aimée ou d'aimer un prince.
C'est vrai, hein, elle va dans les rues de ce petit village en disant « j'aime lire, je vais rejoindre le libraire » et elle flâne comme ça. Donc, en effet, elle aime lire, mais c'est quand même une figure de lectrice presque durassienne qu'on la trouve étrange.
On la trouve étrange.
Romain, est-ce que tu penses qu'on accorde ce point?
Oui, tout à fait, aux couvertures.
D'autant plus étrange qu'elle résiste aux avances du beau Gaston.
C'est vrai.
Alors que toutes les autres femmes du village n'y résistent pas.
C'est très vrai.
On peut faire un point sur la connaissance de Victor dans les détails.
De Walt Disney?
C'est assez fou quand même là.
Est-ce que Victor, vous voulez argumenter sur ce point-là?
Non, je garde ça, c'est ma couverture à
moi. C'est votre couverture à vous. Lucille, vous aviez trouvé aussi?
Oui, mais alors je me souvenais pas du tout que c'était une lectrice, donc c'est uniquement la chanson, je pourrais la chanter, mais en l'occurrence, je me souviens plus du film.
Est-ce que c'est une invitation à vous faire chanter, Lucie? Ça fait quand même deux fois.
Non, mais stop.
Alors on passe à l'extrait suivant.
J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Et j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, Vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est venue avec indulgence.
Oui, c'est vrai. C'est
alors, Romain, qui est-ce qui a trouvé le deuxième extrait de cette...
C'est Mathilde qui a régi la première.
Il me semble que c'est le nom de la rose.
C'est ça.
L'adaptation du roman d'Umberto Eco qui nous a quittés il y a peu.
Adaptation par...
Adaptation par,
Jean-Jacques
c'est
Hanon.
Une éclair... Jean-Jacques Hanon, je ne savais pas.
À ma droite, c'était trouvé aussi.
Oui, ben oui, mais j'ai attendu. Le problème, c'est que j'ai attendu effectivement les voix, parce que le... j'ai confondu avec un autre film au début, mais après, les voix, c'était clair.
Donc, j'ai confondu avec
très,
le générique.
Très clairement, connaissable. Bah, c'est vrai que c'est un peuple de lecteurs, là. On est chez des lecteurs professionnels.
Alors, on va argumenter un petit peu, Mathilde Wagman. Donc, il s'agit d'une adaptation d'un livre d'Umberto Eco.
Ça, je peux le dire. Rose, absolument.
Réalisé par Jean-Jacques Hanon.
Voilà. En quelle année?
86.
Oh là là.
88
Géraldine Bosna, ça va? Non, je vais vérifier, mais il me semble que c'est un film de 1986, exactement.
Oh là là, ouais. Géraldine, bravo. Avec Sean Connery?
Exactement. Sean Connery qui a insisté pour faire partie du film, car au départ, Jean-Jacques Hanon ne voulait pas de comédien professionnel et reconnu, et c'est lui qui croyait tellement à cette adaptation qu'il a insisté pour pouvoir faire partie du projet.
Ça, c'est quand même incroyable.
C'est quand même incroyable.
Sean Connery, Jean-Jacques Hanon
bon.
Est quand même...
Non, finalement, il a accepté.
Oui, enfin bon.
Bon. Alors quand même, qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre-là, Au nom de la rose? Géraldine Mossin, ça va? Vous avez l'air d'être...
Non, mais c'est,
très
c'est...
concernée par cet ouvrage.
Non, c'est juste parce qu'on a fait une émission ce matin au Nouveau Chemin sur Umberto Eco.
Voilà. Comment faire de la rétro-publicité pour sa propre émission.
Vous pouvez l'écouter, elle est très très bien l'émission. Et non, mais sinon j'ai jamais lu Le Nom de la Rose et ni vu le film. Et donc ouais, c'est pas un commentaire très épanouissant.
L'intrigue des moines copistes
sont assassinés mystérieusement. Baskerville, Sean Connery avec un petit...
Pour quelqu'un qui l'a pas vu, c'est pas mal quand même.
Mais c'est parce que j'ai fait le résumé pour Le Conducteur.
Vous voulez nous en parler peut-être, François Angelier? Et peut-être vous pouvez choper la moitié du point dans ce cas.
Ah bah volontiers, si on peut gratter, puisqu'on est des rats, on va ronger le point des copains. Non, non, c'est effectivement un des grands films sur le livre. D'abord parce que ça se passe dans un monastère où on guerre contre chose à part élever les cochons et calligraphier, illustrer, enluminer des livres. On n'a rien d'autre à faire. Et donc non, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le livre devient une arme par destination. Parce que si mes souvenirs sont bons, il y a un livre aux pages empoisonnées, et comme le moine tourne les pages en léchant son doigt et en les mettant sur la page, il s'empoisonne lentement, et c'est comme ça qu'il finit par devenir tout noir. Donc c'est effectivement un grand livre, un grand film sur le livre et
un grand livre sur un grand film sur un grand livre.
Voilà. Mais... non c'est bien, c'est...
Moi,
je pense qu'il faut le revoir, c'est bien. Avec Ron Perlman en plus, qui est extraordinaire.
Non, et c'est dans ce qui est intéressant aussi dans Le Monde de la Rose, c'est qu'il y a un livre d'Aristote, la partie sur la comédie d'Aristote, qui est un livre perdu ou interdit ou qui n'a jamais existé, on ne sait pas. Et donc il y a vraiment un fantasme autour de ce livre, c'est-à-dire que l'existence de cette chose est en fait c'est ça l'enquête, c'est qu'est-ce qu'ils font de, à un moment donné, une sorte de quête, est-ce que c'est les crimes qu'on veut résoudre ou est-ce que c'est vraiment en fait juste la quête du savoir qui est un peu mise en scène, je pense dans Le Monde de la Rose en fait. Voilà.
Et donc une mise en abîme du sens même de la figure du lecteur.
Du
Géraldine a essayé de vous reprendre quand même la moitié de points que vous avez pourtant assez bien défendu.
0,25.
Non, je sais pas comment on va pouvoir trancher ça. Romain, ça te revient.
Je pense qu'on va aller sur 2 points pour les couvertures.
Oh là là, 2 points pour les couvertures. Bon, très bien, ils ne perdent rien pour l'instant. Troisième extrait.
Tu connais William Faulkner?
Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui?
Mais non, mon coco.
Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey.
C'est un romancier que j'aime bien. Tu as lu Les Palmes Sauvages?
Je t'ai dit que non. Enlève ton chandail.
Écoute, la dernière phrase est très beau. Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi?
Monte tes doigts de pied. Très important, les doigts de pied chez une femme, rigole pas.
Tu choisirais quoi?
Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Mais le chagrin, c'est un compromis. Faut tout ou rien. Puis maintenant, je le sais. Ça y est. Pourquoi tu fermes les yeux?
J'essaie de fermer mes yeux très fort pour que tout devienne noir. Mais je n'y arrive pas. C'est jamais complètement noir.
Ton sourire, quand on le voit de profil, c'est ce que tu as de mieux. Ça, c'est toi.
C'est moi.
On a laissé jusqu'au bout quand même pour le plaisir des oreilles ce troisième extrait qui a été deviné, Romain, par...
Bah, par les couvertures encore.
Alors les couvertures, on la figure de... C'est vous
de
quand même,
Mathilde,
hein, Géraldine.
À bout de souffle.
Ouais. À bout de souffle.
À bout de souffle. Bah, donc, on est dans... Je crois que c'est la scène du lit. Enfin, c'est ce
Godard.
Que avec...
ouais, Godard, 1960.
60 59, j'aurais dit. Mais bon...
J'ai marqué 60 sur mes notes, mais je fais plus confiance qu'à Wikipédia.
Le débat fait rage.
On va, Géraldine.
C'est la scène dans le lit, donc ils viennent de faire l'amour, et donc Gene Seberg intellectualise, lui parle de Faulkner, etc. Et puis lui, il en revient toujours à des choses beaucoup plus terre à terre, mais finalement, il dit des choses beaucoup plus jolies qu'elle et peut-être plus intellectuelles que elle, qui se donne comme une liseuse, quoi, comme une lectrice, pardon.
Bon, c'est une façon de
aussi,
c'est une façon de lire l'extrait qu'on peut peut-être lire autrement. Je ne sais pas, Lucie, vous aviez trouvé aussi, c'était sur le bout de la langue, hein, non?
Oui, mais alors j'ai vraiment reconnu les voix, mais je ne me souvenais pas particulièrement du passage. Mais je me disais que quand même, les films de la Nouvelle Vague et de cette époque-là, il y a un nombre de livres incroyables. Et je pense notamment à Une femme est une femme, pour le coup, c'est pas Truffaut, où il se passe, je ne sais plus qui sont, il y a Brialy et puis son nom, Anna Karina, qui communique en se montrant des titres de romans. Ça dure hyper longtemps, il y a une scène très longue.
Une scène de ménage, oui.
Tout à fait.
Non, mais c'est vrai qu'on s'attendait quand même à avoir au moins un film de Godard ou Truffaut pendant ce blind test.
Oui, pourquoi, voilà. Pourquoi?
Mais parce que c'est peuplé de lectures, de références à la littérature. Et ben dans À bout de souffle, là l'extrait est très éloquent. Il y aura aussi dans À bout de souffle l'écrivain Parvulesco, la longue séquence d'interview où l'écrivain est interprété par Jean-Pierre Melville, et voilà, qui est une séquence aussi d'anthologie. Ben, chez Truffaut, pareil, il y a que ça se compte même plus. Donc,
c'était des images. Ce lecteur, Godard, oui, voilà. Truffaut.
Habité par la littérature de Balzac, surtout de Balzac d'ailleur, en ce qui concerne Truffaut, Pierre-Henri Rocher.
Donc la sélection d'Alice, Romain et Chloé ne vous a pas déçu?
Non.
C'est un passage obligé, que ce À bout de souffle de Godard, encore deviné par les couvertures. Peut-être qu'on peut demander aux rats. Ils ont
un prix de la réactivité.
Ils ont un vrai prix de la réactivité pour l'instant. J'ai envie de dire que les dés ne sont pas jetés pour l'instant, Émilie, et on passe au quatrième extrait.
Are you interested in Plato's Republic?
Well, I am Plato's Republic. I'll recite myself for you whenever you like.
Thank you very much.
Avez-vous déjà lu La République de Platon?
Eh bien, c'est moi, La République. Je me réciterai pour vous un jour où vous aurez le temps.
Merci beaucoup. Voilà Les Hauts de Hurlevent par Émilie Brontë. Et elle, c'est Le Corsaire, par Byron. Elle a été mariée autrefois au chef de la police. Cet homme là-bas, c'est Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Mais je ne vois pas Alice à travers le miroir. Elle doit être dans le barrage. Là-bas, c'est Ulysse de Joyce. Il a mangé son livre page par page pour qu'on ne le brûle pas. En attendant Godot, de Samuel Beckett. Regardez la petite blonde qui s'avance vers nous en rougissant.
Je suis Jean-Paul Sartre, La Question juive. Enchantée de vous connaître.
Je m'appelle Chronique martienne, par Ray Bradbury.
Je vous présente aussi...
Oh, moi, c'est Les Papiers de Pickwick, Charles Dickens.
Oh, Charles Dickens. J'ai lu de lui, il n'y a pas très longtemps, David Copperfield.
Nous avons David Copperfield parmi nous.
Il est dans un autre groupe, dans le Sud. Je suis le prince, par Machiavel.
Enchanté.
Comme vous voyez, on ne peut pas juger un livre par sa couverture.
Je suis Jane Austen, Orgueil et Préjugé.
Et moi, Jane Austen, Orgueil et Préjugé.
Tous les deux, le même livre?
Mon frère est le tome 1.
Mon frère est le tome 2.
C'est un bien grand plaisir de vous connaître. Nous appelons l'un Orgueil et l'autre Préjugé. Mais il n'aime pas cette plaisanterie.
C'est presque les Dupont et Dupont. C'est l'équipe des couvertures qui a trouvé.
Mathilde. C'est Fahrenheit 451 de Truffaut. 1964, 5, 6. Par là.
6.
Voilà, c'est le film... Le film hommage de Truffaut à son amour des livres, l'adaptation du roman de Ray Bradbury. Moi, je me souviens pas très bien du film, avec Oscar Werner, Julie Christie, mais je me souviens surtout de l'histoire un peu.
1966,
Oscar Werner, Julie Christie. Il n'y a pas beaucoup de scènes qui me restent, mais je me souviens surtout de l'histoire un peu malheureuse du tournage, parce que finalement, ça a été une aventure douloureuse pour Truffaut. Qui a tourné pour la première, peut-être seule fois, c'était une production américaine. Il avait délégué la production à d'autres. En Angleterre, il parlait pas bien anglais. Enfin, voilà. Et c'est resté... Il a raconté dans des souvenirs de tournage comment ça se passait pas bien. Et c'est un peu triste parce qu'on aurait aimé que que son film de, comme ça, de déclaration d'amour au livre soit une expérience heureuse pour lui.
Et dans cet extrait-là, singulièrement, ce qu'on entend, ce sont des personnes qui se disent bonjour et qui sont elles-mêmes les livres.
Parce que l'enjeu du film, c'est qu'en fait, dans cette une sorte de futur, enfin de dystopie où les livres seraient brûlés, et donc chacun, ceux qui ont cet amour des livres, ont appris par cœur chacun des livres. Donc il y a La République de Platon, Le Prince de Machiavel, Orgueil et Préjugé, etc. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'écriture, en fait, là, est remplacée par la mémoire. C'est-à-dire qu'ils en sont revenus à la distinction entre l'oral et l'écrit comme chez Platon. En gros, Platon avait peur, par exemple, que l'écrit empêche les gens de le travail de la mémoire. Et du coup, là, en fait, on revient à ce que l'écriture perdue permet de revenir à l'oral et, en gros, de se souvenir et de faire, d'avoir des actes de mémoire par ces livres qu'on incarne à notre tour.
Ce qui fait évidemment écho à des expériences très sombres de l'histoire, notamment du XXe siècle, où dans les camps de concentration, et bien des personnes qui étaient dans les cabanons se récitaient par cœur les bouts de livres qu'ils avaient encore en mémoire. Elles faisaient des petites réunions secrètes pour se souvenir de leur lecture et à la fois les garder en vie et pouvoir les transmettre et en même temps se garder vivant. C'est évidemment quelque chose qui est voilà, rattaché à tout ça.
Il y a même des poètes qui ont composé des recueils de poèmes uniquement par la mémoire pendant cette période-là. Jean Cassou, par exemple. Voilà.
Ce qui est revenu.
Oui, oui, exactement. En effet. Oui, qui est revenu, oui.
La scène qui me reste de ce film, indépendamment des autodafés, de la destruction, l'incinération des films qui sont saisis par les forces de l'ordre et les agents de l'État, c'est un cours où on apprend aux futurs policiers à trouver les emplacements où on peut cacher des livres. Et alors c'est amusant parce que c'est exactement comme aujourd'hui avec du plastique ou des pistolets ou des armes de poing. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux avec... Faites attention, un livre, ça peut se plier. Donc si vous avez un cylindre, un livre peut être roulé dedans. Un livre, ça peut être dans le bras d'un fauteuil. Donc c'est très intéressant de voir le livre considéré comme une arme potentielle. Très, très bon moment.
Romain, petit point sur les points.
Ça fait 4-0 pour les couvertures. J'ai envie de dire, tout est encore possible.
Tout est encore possible, exactement. J'ai envie de le dire aussi.
Tu t'intéresses aux mathématiques? Un philosophe a de plus en plus besoin de connaître les mathématiques. Par exemple en linguistique, mais même pour les choses les plus simples. Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du Paris. Et c'est même par là que Pascal est prodigieusement moderne. Le mathématicien et le métaphysicien ne font qu'un.
Ah tiens, Pascal.
Ça t'étonne?
C'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment.
Et alors?
Je suis très déçu.
Dis, continue, ça m'intéresse.
Non, je ne sais pas. D'abord, j'ai l'impression de le connaître presque par cœur, et puis ça ne m'apporte rien. Et puis je trouve ça assez vide. Oui. Dans la mesure où je suis catholique, ou tout au moins j'essaie de l'être, ça ne va pas du tout dans le sens de mon catholicisme actuel. C'est justement parce que je suis chrétien que je m'insurge contre ce rigorisme. Ou alors, si le christianisme, c'est ça, moi je suis athée.
Alors, ça a été deviné à notre gauche par l'équipe des couvertures, Mathilde.
C'est Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer.
L'année ?
1967 ?
1966.
Ah, ah quand même. Comme Fahrenheit. Hein, ah, quand même.
Ah, quand même.
Comme Fahrenheit. Incroyable.
Non mais moque-toi de moi.
À l'intérieur de l'équipe, ils se moquent les uns des autres. Moi, j'avais pas mal envie d'écouter l'équipe à notre droite, l'équipe des rats, qui a trouvé quasiment
presque
au même moment.
Temps.
Voilà.
Relativement synchrone.
Alors, quelle est l'anecdote épanouissante que vous pouvez avoir les uns et les autres sur Ma nuit chez Maud?
Ne l'est pas du tout, en fait. Moi, j'ai adoré ce film et je l'aime toujours, mais je trouve personnellement que l'extrait est le moins... Enfin, c'est celui qui m'a le moins porté, en fait, quand j'ai vu le film déjà la première fois.
Moi, c'est le contraire.
Ah bon? Ah bah, écoutez. Mais... Il y a une phrase de ce film qui est peut-être la moins éloquente et la moins littéraire de toutes, qui me revient tout le temps. C'est Françoise Fabian qui regarde par la fenêtre et qui dit « Il neige, ça fait gosse la neige ». J'adore cette phrase et du coup, c'est totalement à l'opposé de ce qu'on vient d'entendre, ce discours.
Non, tout à fait d'accord sur Françoise Fabian, c'est pas moi qui dirais le contraire. Mais là, je crois qu'on entend à ce moment précis ce que j'appellerais, je sais pas, quelque chose d'une érotique de l'intelligence. C'est-à-dire que le dialogue entre les deux personnages a une dimension intellectuellement érotique. On n'est pas dans, parce que ça met en scène, je crois qu'il y a Trintignant et Vitesse. Et Vitesse est dans le rôle de Goldman, qui est l'historien marxiste de Port-Royal. Et là, la manière qu'ils ont de parler, c'est carrément un dialogue amoureux.
Au sens où ils se séduisent l'un l'autre?
Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la joute amoureuse intellectuelle. Et c'est pour ça que c'est resté très célèbre comme scène, ce qui prouve qu'on ne l'a pas reconnu. Mais ça, c'est très fort. C'est très, très dur à faire. Et Romer est génial là-dedans. Parce que, en plus, c'était une époque où, à la limite, on met pas en scène des intellectuels. Il y a une manière de mettre en scène les livres chez cette génération de réalisateurs qui montre bien que le rapport privilégié et un peu rédempteur qu'ils avaient avec le livre. Quand Truffaut vous montre un livre, c'est pas un rayonnage de bibliothèque où on sent que l'assistant décorateur est revenu avec sa brouette pour vous mettre 3,50 m de livre ou mettre. On sent que c'est un livre particulier. Je suis dans un film de Romer où, à l'arrière de la, je crois que c'est la collectionneuse, c'est ça? Je sais pas. Je crois qu'à l'arrière, on voit Dracula hein, dans l'édition Marabout Fantastique.
Vous voulez dire que c'est choisi à dessein et que ça dit quelque chose.
Et un argument du décor. Et ça, c'est génial.
Bon, ils ont fait quand même vraiment un commentaire extrêmement épanouissant de cette découverte de Manu chez Maud, c'est vrai. Les couvertures, vous voulez peut-être rajouter quelque chose?
Le triangle amoureux dans Manu chez Maud, comme toujours chez Romer. L'enjeu aussi de cette scène, c'est qu'il y a un écho entre ce dont Trintignant et Vitesse parlent, donc le pari de Pascal, et la situation dans laquelle se trouve Trintignant lui-même, qui, catholique, revendiqué, hésite entre, pendant tout le film, pendant le film, il va hésiter,
entre
la brune et la blonde, Françoise Fabian et Marie-Christine Barrault, pour finir par aller dans les bras de la catholique Marie-Christine Barrault.
Et donc, qu'il avait choisi, en fait, dès le début.
Il l'avait choisi dès le début.
Voilà, il décide de la choisir, c'est son pari. Pouvait peut-être le faire un petit peu vriller. Et justement, c'est chez Maud qui déplie vraiment, toujours avec Antoine Vitesse, cet argument du pari de Pascal. Et là, c'est juste avant, en fait, qu'il rencontre Maud. Et ils sont donc dans ce bar, ils se retrouvent, c'est des amis d'enfance, de lycée ou étudiants qui se retrouvent. Et donc, on a l'impression un peu que, au début, c'est vrai que c'est un peu barbant comme dialogue et tout, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc un peu sensuel entre les deux. Et puis, ce qui est bien chez Romer, c'est, on a l'impression de lire un texte écrit et en fait on s'aperçoit à quel point les mots peuvent être incarnés quand ils sont plus sexuels que en fait on a la réunion entre tout à l'heure Jean Seberg et Belmondo, elle se la jouait un peu et puis lui il était hyper terre à terre, bah là il y a les deux ensemble.
C'est quand même pas mal hein. J'avais envie de vous donner le demi-point.
Oui, on vous voyait venir, madame.
Hein, j'avais envie de vous le donner. Je sais pas, Romain, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Mais parce que moi, ça me fait mal au cœur.
Vous pouvez leur attribuer, mais ceux qui pouvons leur donner, c'est nous.
C'est vrai.
On propose qu'on
c'est
leur
vrai.
Donne, parce que au point où on en est.
Non, parce que c'était pas une
sensation. C'est vraiment l'érotique du savoir.
Non, vous n'êtes pas du tout d'accord, Lucille.
Je trouve ça assez humiliant.
Ah mince. Lucille préfère être à zéro. Ok.
Allez, 5-0.
Bon, et prendre son. Eh ben, 5-0.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Henrik Romer est mort, et moi, j'en veux encore, de ses amoureux, dans les trains de banlieue. Henrik Romer est mort, et moi, j'en veux encore, des parcs parisiens, où l'on se tient la main, des balades au bord de la mer, de la voix de Marie Rivière, des rendez-vous dans les cafés, du nombril d'Aïdé, de ses profs de philo, des gens qui lisent dans le métro. Henrik Romer est mort, et moi j'en veux encore, des arbres en plastique, des discussions mathématiques, de toutes ces filles qui pleurent, des endroits et des heures, de la fumée, des cigarettes, de la jeune fille en mobilette, des garçons qui parlent trop haut au musée Picasso. Romer est mort, et moi j'en veux encore, chambres d'étudiants, des grands appartements, de toutes les bibliothèques, de Charlotte et son steak.
14h30 en direct du Salon Livre Paris 2016, les nouvelles vagues sous la forme d'un blind test cinématographique à propos des lecteurs, les figures de lecteurs traitées au cinéma. Romain, un petit point sur les points. Je rappelle que deux équipes s'affrontent, deux équipes uniquement composées de collaborateurs de France Culture. D'un côté, les couvertures avec un très joli cri de ralliement. Et de l'autre côté, les rats avec un autre cri de ralliement.
Lucille fait le cri.
Alors, ça va être difficile, c'était un truc genre...
Voilà.
Voilà. Ça ressemblait pas tellement...
Bon. Le cri du rat.
Quels
le
sont les points,
au fond des rayonnages.
On en est à 5 points pour les couvertures contre 0 pour les rats.
Mais une grande fierté, en tout cas de Lucille, de garder son 0 et de ne pas se faire donner des points.
Tout à fait. Dans le 0, il ne doit pas être souillé par un tiers de point.
Oh, il y a une pureté dans ce 0. Alice, ça découvre ou pas les extraits dans le public, t'as l'impression ?
Je sais pas, vous découvrez les... ça réagit doucement. Hein,
ça réagit doucement. N'hésitez pas, hein, si vraiment des extraits vous parlent. Ben, je vous propose qu'on continue.
Cher Paul, Paul chéri, je viens de lire Peer Gynt dont tu m'avais souvent parlé. Comme je ne travaille pas beaucoup, tu vois, j'ai le temps de me mettre à lire. Les livres que je lis me bouleversent parfois si fort que ça me prend du temps à les lire. Là encore, j'ai fini la pièce d'Ibsen en larmes. Heureusement que tu n'étais pas là, je t'aurais exaspérée. Mais je suis comme ça. Comme je pleurais, je suis sortie marcher dans la rue pour me calmer, puis je me suis arrêtée pour t'écrire ce mot. Paul, tu n'es pas là. Mais souvent, il me semble que ton absence me chuchote dans le creux de l'oreille. Ça me tient compagnie. Et ton absence me demande. Esther, où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai été vraiment moi, moi-même, celui que je suis vraiment? Paul, je suis tellement perdue que je n'arrive plus à me retrouver. Et moi, dans ma tête, je pense. C'est facile, tu étais et tu es encore dans ma foi, dans mon espoir et dans mon amour. Et ton absence me demande encore. Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que tu peux me pardonner? Et dans ma tête, moi, je te réponds. Tu as fait de ma vie un enchantement. Et ton absence me demande. Cache-moi, protège-moi. Et comme Solveig, je te réponds. Dors, mon tout petit, dors. Toute la longue journée de la vie, nous l'avons passée à jouer, à courir, à chanter ensemble. Maintenant, mon enfant a besoin de se reposer. Alors ferme les yeux, mon petit gars, mon fiancé, mon amour. N'aie pas peur, ne crains rien, parce que je veille sur toi. Alors, ton absence s'endort tout contre mon esprit. Je te protège. Je pense à toi, je t'embrasse, Esther.
Et c'est le sixième extrait de ce blind test cinématographique sur le thème des lecteurs, extrait deviné, mais vraiment in extremis, juste avant, par l'équipe des rats et par vous, Émilie Chaudet. Alors, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de comment je me suis disputée ma vie sexuelle d'Arnaud Desplechin.
Vous dites ça à Mathilde Wagman droit dans les yeux.
Je regarde si Mathilde parce que je vois son visage décomposé parce que je sens qu'elle l'aime autant que moi ce film.
Bon, bah alors à vous la parole. 1996.
Donc, 96, voilà, j'allais dire 97. J'ai rien de très rationnel à dire sur ce film en fait parce que moi c'est un de mes films, c'est mon film préféré d'Arnaud Desplechin. Je trouve que voilà, il parle de nous, il parle de nos rapports d'amitié, d'amour. C'est vraiment un film, c'est un très long film. Dans mon souvenir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, presque 3 heures, me dit Géraldine. Et voilà, là, on vient d'entendre la lettre d'amour qu'envoie Esther à Paul. Donc Esther Emmanuel DeVos à Paul Mathieu Amalric. Après leur rupture, ils ont enfin réussi à rompre après 10 ans de relation qu'ils ont conclu très péniblement et en fait voilà, Esther est encore très très amoureuse de Paul et elle essaie de lui dire à quel point son absence la torture chaque jour et je trouve ce passage magnifique et peut-être un peu moins beau encore que leur scène de rupture qui est je trouve la meilleure scène du film en fait.
Et donc la lecture y a une place importante parce que elle lit la lettre qu'elle envoie, elle la joue, mais aussi elle fait référence à une lecture dans cette lettre au départ.
Exactement. Mais ce que je veux dire aussi sur ce moment de la lecture, c'est que à l'image on voit Esther donc Emmanuel DeVos face caméra avec sa lettre dans la main. Ça peut paraître très naïf comme dispositif et en même temps c'est très touchant parce qu'il y a vraiment de la place que pour sa lecture. lecture et sa lettre et ses mots à elle, en fait.
François Angelier.
Ne l'ayant pas vu, je resterai quoi ?
Lucille.
Non, mais c'est vrai que c'est un film qui nous ressemble tellement, comme disait Émilie, que moi, ça m'énerve assez profondément. À la fois, j'aime beaucoup le cinéma d'Arnaud Desplechin. En même temps, ça me met très mal à l'aise parce qu'il y a un effet de miroir qui est... Et de ce point de vue, je préfère son dernier film qui, en fait, est le passé de ces personnages-là, donc d'Esther et Paul, qui s'appelle « Trois souvenirs de ma jeunesse », qui est beaucoup plus romancé et donc on arrive vraiment davantage à mettre à distance. Je le trouve plus beau de ce point de vue.
Ah, c'est marrant. C'est une distance qui me laisse, pour le coup, vraiment à distance.
Oui, voilà, mais on frise toujours un peu la gêne, en fait, quand on regarde ce film. Je suis d'accord avec toi, Lucille. C'est vraiment... on a l'impression de voir des choses de nous et en même temps, c'est assez gênant parce qu'il y a un dispositif et même une couleur assez, très très années 90, presque une sitcom d'AB Productions. Hein. Enfin, il y a vraiment cette touche d'AB Productions. Oui, oui, Mathilde.
C'est un point qui est clairement accordé à cette équipe d'ERA, mais peut-être un mini commentaire, Mathilde Wagman.
Un mini commentaire. Non, cette scène en particulier, moi je la trouve magnifique et c'est amusant parce que ça nous ramène un peu à Truffaut, parce que c'est quand même un petit hommage de Desplechin à Truffaut aussi.
Ça nous ramène à Truffaut, comme par hasard, Mathilde.
La lecture face caméra, c'est aussi un procédé truffaldien dans Les Doses Anglaises, par exemple, mais tout à fait réadapté, magnifiquement interprété par Emmanuel De Vos. J'arrive même pas à en parler tellement j'aime ce film.
D'autres films, non, Desplechin, ce truc, parce que dans Roi et Reine, là par contre, c'est Amalric qui lit sa
plusieurs
propre lettre.
Plusieurs personnages, ouais, tout à fait.
Donc Desplechin, quand même, dans la vague, les nouvelles vagues, mais aussi au cœur de ces films, je ne trouvais même plus de quoi il était question, de ces films, les livres et la lecture. On peut dire ça quand même, hein, de manière un peu générale.
Ouais, ouais. Oui, il y a une scène très drôle dans Comment je me suis disputée, où Paul offre à Esther un livre de Jean-Luc Marion, et elle, les bras lui en tombent, parce que vraiment, elle aurait préféré un autre cadeau.
C'est étonnant,
mais voilà.
Mais m'écarterai-je toujours ? Je crois que oui. Je ne saurais m'en empêcher. Les idées me gagnent, je suis femme, et je compte mon histoire. Pesez ce que je vous dis là. Et vous verrez qu'en vérité, je n'use presque pas des privilèges que cela me donne.
Ok, stop. Vous allez reprendre à « je suis femme ». Mais d'abord, vous le dites dans votre tête. « Je suis femme », c'est une vérité. On est d'accord, Saïda ?
Oui.
Et on part de là. Et vous comptez votre histoire. C'est une vérité.
Je suis femme. Et je compte mon histoire. Parmi les jeunes gens dont j'attirais les regards, il y en eut un que j'ai distingué moi-même et sur qui mes yeux tombaient plus volontiers que sur les autres. J'aimais à le voir, sans me douter du plaisir que j'ai trouvé. J'étais coquette pour les autres et je ne l'étais pas pour lui. J'oubliais à lui plaire et ne songeais qu'à le regarder.
Merci, Saïda. Maëlys ?
Apparemment que l'amour, la première fois qu'on en prend, commence avec cette bonne foi-là. Et peut-être que la douceur d'aimer interrompt le soin d'être aimable. Ce jeune homme, à son tour, m'examinait d'une façon toute différente de celle des autres. Elle était plus modeste et pourtant plus attentive. Il y avait quelque chose de plus sérieux qui se passait entre lui et moi. Les autres applaudissaient ouvertement à mes charmes. Il me semblait que celui-ci les sentait. Du moins, je le soupçonnais quelquefois, mais si confusément que je n'aurais pu dire ce que je pensais de lui, non plus ce que je pensais de moi.
Entre lui et moi, cette merveilleuse voix d'adolescent dans cet extrait qu'il fallait deviner. Alors vous avez, semble-t-il, deviné de part et d'autre de la table, mais est-ce que vous avez bon titre du film ? Qui veut commencer ? Victor, dans l'équipe des couvertures.
Moi, j'ai pensé tout de suite à l'esquive parce que c'était une voix adolescente. Puis ensuite, il y a eu un moment de flottement. Mais est-ce qu'on reste sur l'esquive ? Je consulte mes couvertures.
Oui, l'esquive, donc réalisée par Keshish.
Avec 2002.
Donc ça, c'est votre choix. Et de ce côté-là, parce que c'était un choix qui était assez contemporain.
On a d'abord trouvé Abdelatif. En fait, j'ai un petit doute parce que dans mon souvenir, dans l'esquive, c'est la professeure est une femme. Et là, c'est un homme. Et du coup, j'ai un doute. Donc,
je pense que c'est un doute qui est quand même assez bon signe.
Il n'y a pas une scène avec un homme aussi dans l'esquive. Moi aussi, je me souviens très bien de la professeure.
Alors, je propose qu'on tranche. Vous allez trancher de ce côté-là de la table. Donc, c'est un film de Keshish, ça, vous en convenez ? Non.
Ou pas. Non, moi, je réserve dans le débat.
François se réserve. Émilie.
Moi, je pense que oui, mais j'ai vraiment des gros doutes sur l'esquive et je ne sais pas ce que ça peut être d'autre.
Ah, vous ne savez pas ce que ça peut être d'autre. Donc, non, c'est Keshish, mais vous ne savez pas ce que ça peut être d'autre en dehors de l'esquive.
Sinon, c'est peut-être...
Peut-être Alice, est-ce que tu consultes... Vous voulez passer un coup de fil à votre ami le public ?
Alors, le public, est-ce que quelqu'un a une idée ?
Ah, il y a une idée.
Alors,
je suis pas du tout sûre, mais moi, j'aurais dit Entre les murs. Non.
Alors, une autre idée ?
C'est une hypothèse intéressante, mais je crois que je dois d'ores et déjà dire que c'est pas la bonne.
Alors, vous pensez que c'est l'esquive aussi ?
Confirme l'esquive, oui.
Et donc, non, c'est pas l'esquive, non, alors c'est encore une idée.
Alors, c'est la vie d'Adèle.
C'est la vie d'Adèle. Ouais, c'est la,
vous
c'est
l'avez
la vie
marqué
d'Adèle.
Sur le papier.
D'Adèle Hatifkechiche, donc c'est aussi.
Si, c'est la vie de Marianne.
On est au tout, au tout début du film, donc elle a rejoint son établissement scolaire, ouais. Et c'est en effet une scène qui est très proche de l'esquive d'Adèle Hatifkechiche, mais c'est quand même un motif qui est très important, et donc ils sont en train d'étudier un texte théâtral et ils échangent là-dessus. Donc ça, c'était normal.
La voix étant tellement jeune, moi j'ai
de faire la confusion avec l'esquive. Mathilde.
Non, je suis en train de me dire la vie de Marianne de
Marivaux.
C'est très Marivaux chez Kechiche.
Non, parce que du coup, moi je me disais oui, Marivaux. Forcément l'esquive. Mais non.
Non, c'est aussi prêt. Alors c'est un petit peu plus discret, hein, la manière dont cette lecture émaille le film de Kechiche dans ce cas-là. C'est moins frontal que dans l'esquive, mais c'est quand même là. C'est un point un peu mollasson, moi je trouve. Pour
c'est la rencontre. Personne,
c'est un point qui va à personne.
On parlait pour un demi-point. Hein. on aurait pu négocier un petit demi-point, mais on va le.
Bon d'accord, j'arrive.
Objectivement, personne n'a trouvé.
Objectivement, c'était un peu mollasson, voire personne n'a trouvé. Donc Romain, un petit point sur les points.
On en est à 5-1.
Il y a urgence de poursuivre.
You read the Bible, Ringo?
Not regularly, no.
Well, there's this passage I got memorized.
Tu lis la Bible, Ringo?
Pas tous les jours.
Il y a un passage que j'ai appris par cœur. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. Ça fait des années que je répète ça. L'enfoiré qui l'entend, il meurt aussitôt. J'avais jamais cherché à comprendre. Je trouvais seulement que ça en jetait de dire ça avant de flinguer un mec. Et puis ce matin, j'ai vu quelque chose qui m'a fait réfléchir. D'un seul coup, je me dis, ça pourrait bien vouloir dire que tu es l'œuvre du malin, et que l'homme vertueux, c'est moi, et que mon joli 9 mm, ce serait mon protecteur, mon berger dans la vallée de l'angoisse et des larmes. Ou encore mieux, c'est moi le berger, et toi l'homme vertueux. Et c'est le monde qui est l'œuvre de Lucifer. Qu'est-ce que tu dis de ça ?
Huitième extrait, devinez d'abord un peu timidement, puis de manière un peu franche, ensuite par Lucille Como, de quoi s'agit-il ?
C'est Pulp Fiction de Tarantino, mais en fait je suis en face de Romain, je connais bien quand même. Et quand je vois Romain écouter Tarantino, du coup ça m'a un peu confirmé, j'avoue.
Cette phrase quand même. Quand vous voyez Romain écouter Tarantino, vous savez que c'est Tarantino.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu comme quand on voit Angelier écouter Ézéchiel. On voit que quelque chose se passe.
Retour à la maison.
Bon, alors on va développer un petit peu. Qu'est-ce qu'on entend ?
Je ne me souviens pas du moment. Je crois que c'est le début. Et c'est
Samuel. C'est le début, mais c'est la fin en fait.
C'est la toute fin.
C'est la toute fin. Mais ça fait référence.
C'est le début de la fin.
C'est le début de la fin.
C'est Samuel L. Jackson. Mais alors par contre, je trouve que le lien est un peu ténu. Si je peux me permettre, entre le Pulp Fiction et la lecture.
À part la lecture.
Où il récite des extraits de...
Il récite un extrait de la Bible, qui est le livre.
Qui est le grand livre, quand même. Et vous avez fait ce geste-là, quand même, qui relève à la fois de l'hip-hop US et des arts martiaux. Mais
ce qui est tout à fait mon style, ce qui résume mon
style. Il faut savoir que c'est grâce à cette phrase et grâce à cette lecture si intégrée, presque digérée, qu'il réussit quasiment à tuer son adversaire.
Et c'est une lecture au sens où...
Ah bah oui, non, mais la Bible, c'est la meilleure arme qu'on ait jamais inventée. Ça permet tout. Ça permet donc ce type de scène. Je veux dire, tout le roman noir, le film noir, toute la noirceur américaine sort de cette espèce d'énergie noire de la Bible. Et ça, là, on en a un exemple. Et ça leur vient malgré eux. Je veux dire, c'est quelque chose qui arrive tout naturellement, qui émane spontanément du mental, du prana. Voilà, non, bien sûr.
C'est un point très grassement et largement accordé à l'équipe à droite, à l'équipe des rats, que j'ai envie de commencer à applaudir, en fait, maintenant, ces points. Un petit commentaire épanouissant ou pas ?
Là, pas beaucoup. Mais j'ai vu l'œil de Victor frisé, de Victor Massé de l'Épinay, non ?
Faites voir votre œil quand il frise, Victor. Ah oui, c'est très net.
Non, moi je me souvenais surtout de la. Mais je croyais que c'était juste après ça qu'il parlait des frites qu'on mange avec de la mayonnaise. Mais ça, je crois que c'est au début, et là vous dites que c'est à la fin.
Non, parce qu'on est quand même censé parler des lecteurs et de la lecture, quand même.
Ah oui, bien sûr.
On poursuit.
Un gâteau pour le prince. Mon livre. Le savarin aux pommes, le chenonceau aux rangs, le délice à la noix, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé aux pruneaux, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour, ma robe couleur de soleil.
Oui, voilà, c'est au grand désespoir de Mathilde que nous coupons cet extrême, et parce qu'il vient d'être reconnu par Émilie dans l'équipe des rats.
Et d'autres. Laisse...
Et d'autres. Non, mais c'est vrai, tout le monde a reconnu, après. Mais Émilie, je vous laisse commenter cet extrait.
Donc, c'est Peau d'âne de Jacques Demy. Alors, l'année de sortie, par contre, je ne me souviens plus.
1970.
1970, voilà. Et là, c'est une scène essentielle dans le film, la scène du cake d'amour où Peau d'âne va donc cuisiner un gâteau pour le prince et glisser une bague dans la pâte, voilà, donc qui enfile sa robe couleur du temps, couleur de lune,
de soleil
peut-être, ouais. Ouais, c'est ça, la plus belle robe dorée qu'elle a. Et donc voilà, elle commence à chanter la recette de ce cake d'amour et voilà. L'anecdote épanouissante, non, j'en ai pas vraiment, si ce n'est que quand j'ai vu le film, j'avais peut-être 6 ans et que j'ai essayé de faire le même cake après. Et...
Comme beaucoup, j'imagine.
Comme beaucoup d'enfants, je pense. Et bon, la bague, j'ai jamais retrouvé la bague et le cake était immangeable. Voilà, donc...
Et figure de lettrice un peu particulière, car lectrice
oui,
en train de cuisiner,
en train de fabriquer
et
en train de chanter. Voilà, donc une lectrice quand même très particulière. Et, je pense,
Est-ce que c'est vraiment un acte de lecture de lire une recette de cuisine?
Eh bien, nous avons décidé que oui. Nous avions décidé que oui.
La lecture intervenait comme l'adaptation d'un conte. C'est-à-dire qu'on parlait de l'adaptation...
Double lecture du choix de cet extrait, je pense. Mais on s'est vraiment concentré sur le fait que le livre de recettes était un livre à lire.
Parce
comme
que dans les films, on lit aussi des panneaux de signalisation.
Les modes d'emploi.
Elle a envie de casser cette histoire. Parce qu'en fait, elle sent que quand même, ça commence à tourner le vent.
Hein, je trouve ça injuste.
On va poursuivre, Géraldine.
All right, let's take a fresh look at this. Even though the corpse is there, look through it. Edit out the initial shock. The trick is to find one item, one detail.
Ah, il faut repartir à zéro. On a un cadavre sous les yeux, d'accord, mais il faut voir plus loin. Il faut oublier le premier choc. L'astuce, c'est de trouver un élément, un détail, et de se concentrer dessus jusqu'à ce qu'on ait écarté toutes les hypothèses.
Je vais me chercher une autre bière. Vous en voulez une?
Non, du vin, s'il vous plaît. Il prêche.
Il punit.
Se référer.
Et on revient très rapidement sur cet extrait aussi. Mathilde Wagman pour l'équipe des couvertures. Vous avez choisi. De quoi s'agit-il?
Seven de David Fincher.
Exactement. Pourquoi est-ce qu'on peut citer la lecture dans le cas de Seven?
Alors, il passe beaucoup de temps à la bibliothèque, je me souviens, pour pour trouver la solution du crime.
Il tue d'abord selon les sept péchés capitaux.
Voilà.
Et puis il y a un truc avec l'enfer de Dante aussi.
Voilà, c'est comme ça qu'il
y a toute la scène où ils sont à la
bibliothèque. Il tue avec des coups de livre.
Ben ça, je sais pas.
Ça commence à être plus imprécis qu'épanouissant, là, je trouve, quand même, les commentaires. Rapidement, François Angelier, sur ce scénario.
Non, mais ce sont c'est ce qu'a préfiguré tous les films de torture porn dont on parlera samedi à mauvais genre. C'est des crimes ritualisés, scénographiés, comme des véritables tabernacles de la mort, comme ça, et qui sont faits qui découlent d'une sorte de théologie du crime, et où chaque mort est identifié à un péché capital, et le premier, c'est la gourmandise. Et alors c'est absolument hallucinant, puisque le personnage a été enchaîné à une table et a été gavé jusqu'à quasiment exploser, donc à cette espèce d'énorme couette de chair molle, comme ça, enchaînée à une table, et tous les péchés défilent comme ça.
C'est
vrai que c'est une lecture ultime de la Bible.
C'est une lecture ultime de la Bible, et c'est aussi l'ultime extrait. Finalement, on n'aura pas le dernier, c'était American Pie, et je vous laisse imaginer pourquoi. Romain, un petit point sur les points?
Eh ben, on en est à 6-3.
6-3, c'est donc une victoire des couvertures que l'on peut applaudir. Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux. Et le jeu se suspend à 14h49 en direct du Salon Livre Paris 2016 pour faire entendre la voix de Romain Villet qui était avec nous depuis lundi pour raconter des moments marquants. Il est musicien, il est aussi auteur, c'est aussi un grand amoureux des livres et le fait qu'il soit aveugle ne facilite pas toujours à la satisfaction de son appétit de lecture. Mais heureusement, il y a cette machine nommée Victor et il nous explique.
Je vais vous parler aujourd'hui du Journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière, qui est un livre que j'ai découvert récemment et qui m'a attiré d'abord parce que j'ai moi-même très longtemps tenu un journal, qu'ensuite je suis extrêmement casanier, et puis que j'ai découvert Dany Laferrière au moment où il a été transcrit, avec un petit délai de retard, comme bien souvent, puisque entre la parution en librairie et le moment où les aveugles peuvent lire les livres, il se passe toujours un certain temps. Et j'ai découvert Dany Laferrière que j'ai lu et j'ai été enthousiasmé par son œuvre de façon générale. Et finalement par ce livre qui est pour moi le meilleur manuel d'écriture qui n'ait jamais été écrit. Ce livre, c'est véritablement une plongée dans la cuisine de l'écriture. Donc, il y a assez peu de choses. Il y a même, pour ainsi dire, rien, en fait, sur la vie de Laferrière elle-même, si ce n'est tout ce qui concerne très directement l'écriture, et avec énormément de petites questions très pratiques que se posent toutes les personnes qui écrivent, des questions cruciales pour un écrivain, dont d'abord bon nombre d'écrivains ne parlent pas parce qu'ils ont l'impression que il est de leur éthique personnelle d'agir en prestidigitateur qui ne révèle pas les secrets de leur tour. Et c'est sans doute pour ça que ce livre m'a tant plu, c'est que j'ai retrouvé un certain nombre de questions que je me pose, sauf que Dany Laferrière a écrit ce livre à quelque chose comme 55 ou 60 ans, à l'époque où lui en a une vingtaine dans la plume. Et donc il a le recul qui lui permet de dire comment il a procédé jusque-là, recul que n'a évidemment pas un écrivain qui est en train de faire ses gammes et qui tâtonne dans son coin en se demandant si ce tâtonnement ne devrait pas le faire renoncer. Et voilà, j'ai toujours été un lecteur absolument passionné et j'ai toujours lu énormément avec l'idée et l'envie d'écrire moi-même. Après, c'est une très grande question de savoir à quel moment je suis devenu écrivain. Pour tout vous dire, j'ai toujours voulu écrire. C'est un désir que je me connais depuis que j'ai quelque chose comme 5 ans et demi ou 6 ans. Enfin, et ensuite, on est écrivain, je sais pas bien quand, mais j'ai eu l'impression pour moi, et ça rejoint, je parlais hier d'Henry Miller, ça, c'est quelque chose que je partage avec lui. Henry Miller attache une énorme importance à l'écriture de la correspondance dans sa vie, qui est pour lui le lieu où sa plume s'est véritablement libérée, et elle se libérait avec quelque chose qui l'étonnait énormément, parce que quand Henry Miller écrivait des lettres, il ne comprenait pas pourquoi ces lettres tombaient de sa plume dans un style impeccable où il n'y avait rien à retoucher. Et Miller parle de lettres d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pages qui naissent comme ça quasiment spontanément, alors qu'il essaye d'écrire des romans. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément Henry Miller, c'est que Henry Miller est un écrivain tardif, un écrivain qui fait ses gammes dans l'ombre, qui est obsédé par l'idée d'écrire pendant des années avant que le public n'en voie les fruits. Et je suis, toute proportion gardée, un peu dans cette perspective-là. Donc pour moi, c'est passé aussi beaucoup par la correspondance et puis par l'écriture du journal dont je vous parlais à l'instant. Donc d'abord essayer d'écrire pour soi et puis essayer progressivement d'aller d'une écriture pour soi à une écriture qui s'assume suffisamment pour être publique. Et public, ça ne vous aura pas échappé, commence par les mêmes lettres que publiable. Yeah.
Alors ils sont obligés de laisser leur place, mais je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse chaleureusement Lucille Como, Émilie Chaudet, François Angelier dans l'équipe des rats. Vous avez été de très bons perdants.
Bravo Nouvelle Vague.
Et tout était extraordinairement épanouissant dans vos commentaires. Merci. Géraldine Mosna-Savoie, Victor Massé de l'Épinay et Mathilde de Vague. Maintenant on vous applaudit très fort car vous êtes les vainqueurs.
Merci.
L'équipe des couvertures, vous avez été extrêmement épanouissant, vous aussi. Et on a adoré vous écouter. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir été ici et d'avoir été derrière votre poste. On se retrouve lundi, même heure, même endroit, pour une semaine de rêve avec les élèves du lycée Jacques Decour à Paris. On les a vus ce matin et ils sont en grande forme. Un grand, grand merci à Romain Debecq de Lièvre, à Alice Ramon, Inès Duperron et Chloé Leblon qui imaginent cette émission avec moi. Elle est réalisée par Lise Combe, avec aujourd'hui aux manettes Clément Daté, Stéphane Beaufis et Gilles Manet. Dans un instant, on retrouve les invités de Mathieu Conquet et Mathieu Conquet lui-même.